Pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Hier soir, le président n'a fait que répéter la phrase « Nous sommes en guerre ». « Excusez-moi, la seule guerre que je vis en ce moment, c'est avec l'ennui », écrit l'un. « Un jour tout va bien, un jour je m'ennuie, un jour je suis heureuse », écrit une autre collégienne. « Ma mère a craqué, on a un seul ordinateur pour deux et c'est le seul moyen pour elle de travailler, elle est documentaliste. Elle doit donc attendre que j'ai fini mes devoirs, ça provoque beaucoup de tension. » Voici trois extraits de journaux de bord écrits en cours de français par deux classes de 3e dans l'Isère pendant le confinement et publiés dans Le Monde par la journaliste Camille Bordonnet et qui en disent long sur l'état des ados pendant ces 7 semaines. On s'en doute, ce qui a joué le plus, ce sont les conditions de logement, la possibilité d'accéder à des espaces verts ou de s'isoler pour travailler, d'avoir une pièce à soi, de se connecter à Internet, mais pas trop, et d'avoir des activités ludiques avec d'autres êtres humains. C'est ce qu'a détaillé, en tout cas dès 2021, Santé publique France. Aussi, évidemment, on comptait les éventuelles difficultés financières et alimentaires de la famille. Si les parents se sont trouvés au chômage avant ou pendant le confinement, s'il y a eu une baisse de revenus dans le foyer et si un proche, bien sûr, a été touché par le Covid. Mais dans l'ensemble, ce sont surtout les filles qui ont été les plus touchées du point de vue de leur santé mentale. Tout de suite, voici deux histoires très différentes d'ados confinés dans des conditions et dans des contextes assez extrêmes. Elles sont racontées par Rita Ruggirello.
Je m'appelle Arnaud, j'ai 22 ans, je fais une licence de géographie à l'université de Nanterre et à côté de ça, j'ai un projet de musique et je vis sur Paris. En primaire, du coup, ouais, j'étais le petit garçon qui... Les autres camarades appréciaient bien. J'étais assez vif, très marrant, j'adorais l'humour. Genre, je faisais vraiment de l'humour tout le temps. Je faisais tellement d'humour à tel point que je pense qu'il y avait d'autres choses que j'avais besoin de combler grâce à l'humour. Et en fait, j'en faisais tout le temps, quoi. Je détestais l'autorité et l'autorité me détestait. On avait vraiment une relation hyper toxique entre moi, les profs. J'allais tout le temps voir la directrice. J'ai passé des heures dans ce bureau et en fait, à un moment donné, c'était vraiment... Juste, on passait du temps à essayer de régler des choses qui étaient irrésolvables. Vraiment, il y avait une espèce d'énorme fatalité sur toute cette scolarité qui marchait pas. Moi, j'ai redoublé mon CE2 et puis après, il a bien fallu quand même que j'avance, quoi. J'étais hyper actif dans ma tête, hyper actif dans mon corps. Je pouvais pas... rester sur place, en cours je faisais n'importe quoi et j'avais besoin de créer des petits événements, j'avais besoin que les gens se retournent, que les gens parlent ou qu'il se passe quelque chose et vraiment c'était insupportable d'être assis sur une chaise et de voir un adulte en face de moi devant un tableau parler pendant une heure. Mais en fait ça peut pas être ça la vie, c'est pas possible quoi. Et j'avais beaucoup de problèmes d'attention, je passais mon temps à regarder ce qui se passait dehors, ce qui se passait chez mes camarades à côté à droite à gauche. Il y a beaucoup de choses que je comprenais pas en fait, qu'on essayait de m'inculquer et que j'arrivais pas à y donner de l'importance en fait. L'arrivée au collège m'a pas beaucoup marqué, je dirais même que ça a eu une tendance à empirer. Et du coup, en fait, je passais mon temps à juste avoir des mots dans le carnet, des heures de colle, des rendez-vous chez la CPE et c'était des trucs froids, sans émotion, juste où en fait... Franchement, je trouvais ça super déchirant, quoi, à chaque fois de me dire, ouais, bah voilà, t'as 2 heures de colle ici, 2 heures de colle là, donne-moi ton carnet. Et je sais qu'à un moment donné, j'avais des remarques des profs au fur et à mesure quand j'avançais dans mon collège, des trucs du style, à quoi bon venir en cours si c'est pour faire ça? Mais ils se rendent pas compte de l'impact que ça a, ce genre de phrase. Surtout à cet âge-là, moi, j'avais une tendance à prendre les choses et les phrases et tout ce qu'on me disait vraiment pour argent comptant tous les matins. J'étais en mode, mais en fait, ils ont raison, quoi. Ils arrêtent pas de me dire pourquoi je viens, mais en fait, ça sert à rien, quoi. Et je faisais ma propre école buissonnière dans le collège. Je travaillais pas, je faisais rien en cours. J'étais vraiment le mec qui allait au fond de la classe et qui lisait des bouquins pendant que le cours était en train de se faire, quoi. Quand j'ai commencé à arriver à la jonction entre le collège et le lycée, je suis arrivé à une période de ma vie, une espèce de milieu fin d'adolescence, où j'ai commencé à développer plein de troubles psy et de périodes de dépression. Ça a fait que ça m'a éloigné énormément des cours. Je commençais à avoir de grosses questions existentielles. Vraiment, mot pour mot, je me disais des trucs du style « De toute façon, vu qu'on va tous mourir, à quoi bon avoir un bac ?» Je voulais plus rien faire, je voulais plus vivre, je voyais plus le sens de rien, et en même temps, tout me faisait flipper. J'aurais jamais eu le cran de me flinguer moi tout seul, parce que de toute façon, j'ai trop peur de la mort pour ça, donc... Et là, est arrivé précisément à ce moment-là, le premier confinement. Moi, je me rappelle vraiment d'un confinement très printanier, je me rappelle qu'il faisait beau, qu'il y avait les bourgeons partout. Moi, j'ai vécu un très très bon premier confinement. À cette époque-là, je me suis inscrit à la garantie jeune. Et là, vraiment, ça s'est fait en 2 jours. J'ai vu une conseillère, Madame Erard, exceptionnelle, je m'en rappellerai toute ma vie. Je lui parle pendant 1 heure de ma vie. Et du coup, elle m'a inscrit dans un truc qui s'appelle le DAU, donc Diplôme d'accès aux études universitaires. Tout est dans le nom. Le truc, c'est que c'est un équivalent du bac, en fait, qui se passe en 1 an. Et avec ce diplôme, bah, on peut avoir accès à l'université. C'est dispensé par les universités, sans même avoir de bac. Et là, je me dis, putain, c'est génial, ça veut dire que je peux aller dans n'importe quelle université de France. Et du coup, je me suis retrouvé à Strasbourg, à faire ce DAU. Ça m'a fait énormément de bien d'arriver là-bas. J'ai adoré la ville, j'ai adoré beaucoup de choses à Strasbourg, quoi. J'avais trop de chance, ça se goupillait trop bien, l'appart était trop beau. Les cours, j'adorais les cours pour une fois dans ma vie. J'aimais ce qu'on nous apprenait en cours, enfin du moins presque. Mais j'avais une prof de français qui était géniale, qui m'a redonné le goût d'apprendre et tout. J'avais des potes de classe qui étaient trop cool. Et là, le deuxième confinement est arrivé. Alors sur le coup, ça va. Les premiers jours, ça va. Et je me dis même que j'ai de la chance parce que nous, de toute l'université de Strasbourg, mais vraiment de la totalité de tous les services de l'université de Strasbourg, nous, la section DAU, on était les seuls à avoir eu une dérogation spéciale pour continuer à venir en présentiel en cours. Tous les autres, c'était les cours en distanciel. Alors moi, j'étais en cours du soir, donc je venais pour 18h30 et on faisait les cours du soir jusqu'à 21h, 22h. Et on était les seuls dans une université vide, désertée. Les universités, c'est un truc tellement grand. En plus, c'est un énorme campus à Strasbourg. C'est que des immenses bâtiments hyper grands partout. Et il y avait un peu un côté fin du monde apocalyptique. Vraiment, on rentrait dans ces couloirs, on ouvrait les portes. En plus, les lumières, souvent, elles étaient un peu éteintes et tout. Tu sens qu'ils étaient là à faire des économies d'énergie. Ils n'allaient pas tout rallumer juste pour nous, la classe de 22 élèves, quoi. Donc, on était vraiment seuls au monde. Et il y avait ce truc où on se réunissait toujours un peu avant les cours à la machine à café. On était là à papoter. J'aimais bien. Et je me disais, bon, on a cette dérogation. On peut encore se voir. Moi, ça me permet de sortir. Je rentrais à 21h. On avait notre petit mot pour dire « Oui, j'ai le droit d'être dehors à cette heure-là parce que j'ai cours. » Voilà. Donc vraiment, on était au seul moment. Je rentrais avec mon tram vraiment à 22h. Il n'y avait plus personne. J'étais le seul dans le tram. C'était assez drôle, quoi. Et après, c'était devenu beaucoup moins drôle très rapidement. Parce que pendant le premier confinement, tout était catastrophique dans ma vie. Et du coup, le confinement est venu me sauver de ma vie catastrophique. Alors que là, tout allait bien dans ma vie. Et ce confinement, il est venu balayer tout ce qui était bien, justement, à ce moment-là. Il est venu dans une période où je voulais vivre. Justement, là, j'avais envie de ça. J'avais envie de sortir, j'avais envie d'aller au musée, j'avais envie d'aller au théâtre, j'avais envie d'aller au cinéma. Je voulais aller voir les villes alentours. Et en fait, non. Confinement. Et alors là, la descente aux enfers, quoi. Vraiment. Le fait d'avoir fait sauter toutes les obligations sociales, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de rendez-vous, on n'avait plus de raison de sortir, il n'y a rien qui nous poussait à ni nous lever le matin, ni sortir dans la journée pour aller faire quoi que ce soit. Et bah ça a fait que tout simplement, en 2 semaines, je me suis retrouvé à vivre la nuit. La journée type, je commence par le réveil. Réveil 16h30, 17h. Du coup, ça, comme je commence par là, ça sonne bizarre, mais bon. Réveil 16h30, 17h, je m'habille. Je prends le tram, je vais en cours dans le centre de Strasbourg, je fais mes cours, je quitte les cours vers 21h, 22h, je rentre chez moi, à 22h, 23h, je suis chez moi, je commence ma journée. Alors, quelle journée peut-on appeler ça une journée ? Il fait nuit, tout est fermé, donc ma journée c'est faire de la musique, regarder des séries et commencer à déprimer de plus en plus. Faire ça très précisément jusqu'à... Alors ça se décale petit à petit, au début c'était 5h du matin, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, alors à la fin j'en suis venu effectivement à aller faire mes courses ce matin à l'ouverture des magasins, quoi. Je rentrais chez moi, je prenais un espèce de petit déjeuner à 6-7h du matin, et puis après j'essayais de dormir vers 9-10h, quoi. Et je dormais toute la journée. Et là, ça a devenu très dur, parce que, un, je voyais plus le soleil, j'avais plus la lumière du jour, à un moment donné j'ai vraiment pété un câble, parce que tout ça était en hiver. Donc déjà, à 17h, 16h30, 17h, il n'y avait plus de soleil. Donc moi, quand je me réveillais précisément à l'heure où il n'y avait plus de soleil et je voyais plus le soleil pendant un mois et demi, quoi. C'était vraiment un truc très vampirique, hein. Et j'étais vraiment en manque de soleil, un truc super bizarre physiologique. J'avais besoin de soleil maintenant là. Je venais d'ouvrir les volets et c'était insupportable pour moi de voir qu'il faisait nuit encore. Je voulais du soleil et je me disais mais tu ne peux rien faire. Tu vas te taper la tête contre le mur quoi qu'il arrive. C'est demain le soleil. Il va pas claquer des doigts et il va apparaître quoi. Enfin, je suis rentré dans une espèce de phase comme ça. Tout ça, ça m'a replongé dans des conditions très analogues à celles dans lesquelles je suis quand moi je suis en dépression. Naturellement, c'est-à-dire que je vois plus personne, je veux plus voir personne, je veux plus sortir. Donc en fait, j'ai presque envie de dire que c'est comme si le mécanisme avait fonctionné mais dans l'autre sens quoi. Les roues ont tourné, l'engrenage a tourné dans l'autre sens. Au lieu d'être dépressif et donc d'avoir transformé ma vie d'une certaine manière, ma vie a été transformée de force d'une certaine manière qui m'a replongé dans une dépression, vous voyez. Et là, ça a été dur. Là vraiment, j'ai commencé à avoir des très 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 gros troubles du comportement alimentaire. Par exemple, se nourrir uniquement de bols de chocolat au lait pendant, genre par exemple, 2 semaines. Je me suis dit, mais c'est fou que je sois encore en vie. Genre vraiment, j'arrivais pas à... J'étais en mode, c'est possible de vivre comme ça. Vraiment, j'avais besoin que ça s'arrête parce que j'avais un fonctionnement qui était antinomique avec l'idée de survie, en fait. Littéralement, ça pouvait pas fonctionner, c'était pas possible, quoi. Donc, je sais pas comment ça aurait duré avec un mois de plus, mais il était temps, quoi. Et... le confinement s'arrête, ça m'a remis des obligations sociales dans ma vie. C'est-à-dire que je me suis retrouvé de nouveau avec des rendez-vous, avec des potes surtout, qui me contactaient, m'appelaient pour me dire « Ouais, on va sortir là, ou on fait une soirée là, ou on fait un truc. » Avant, on se voyait même plus. C'est quand on a commencé à reprendre contact et au fait qu'il fallait sortir et tout, et là, tout de suite, ils ont capté. Un, déjà, je répondais plus aux messages, aux trucs. Deux, je voulais pas sortir. Et les peu de fois où je sortais, je devais avoir tiré une gueule d'enterrement de fou, quoi. Et en fait, mes potes, ils ont tout de suite compris qu'il y avait rien qui allait. Et c'est encore une fois le social qui me sauve les fesses, quoi. Parce que déjà, il y a très longtemps, quand j'étais à l'école, c'est la seule chose qui me faisait du bien, c'était d'avoir des gens autour de moi et tout. Et là, encore rebelote, et toute ma vie, c'est ça. C'est heureusement que j'ai des gens bien autour de moi. Je sais que j'ai cette chance. C'est vraiment... La chose sur laquelle j'ai vraiment le plus de chance dans ma vie, c'est les gens. Je sais que j'ai toujours eu la chance d'être bien entouré, de gens compréhensifs, aimables, qui me jugent jamais, et j'ai toujours eu des gens qui étaient là pour m'aider, et vraiment, et ça m'a toujours un petit peu sauvé ma vie tout au long de ces dernières années, quoi. Et là, vraiment, à un moment donné, c'est vraiment une pote qui m'a traîné de force, quoi, dehors, et qui m'a dit, à un moment donné, il faut aussi consulter, aller dans un service psy et tout, et c'est comme ça, quoi, en fait, que j'en sors. J'ai rencontré un psy qui est super, qui est enfin vraiment intéressé par mon cas, qui veut vraiment m'aider. Je sais pas, je me sentais compris. C'était très différent de ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. Et ça m'a fait énormément de bien. Et vraiment, pendant un an, ça m'a un petit peu sauvé la vie. Après, donc forcément, j'ai aussi été orienté vers une psychiatre pour avoir une médication, parce que là, j'en ai vraiment besoin. J'ai mangé des anxiolytiques tous les jours pendant au moins 2 mois et demi. Bah, par contre, ça m'a fait vraiment du bien. Enfin, c'est horrible à dire, mais j'en avais vraiment besoin. J'aurais vraiment craqué sans quoi. Truc infernal quoi, j'en pouvais plus. Donc là, je me suis dit, il me faut un cadre. J'ai mon DAU maintenant en poche, pourquoi pas en fait s'inscrire à l'université quoi. Je l'ai fait. Et je suis très content d'avoir fait. Hein. Très content d'avoir fait ça au final parce que j'adore la géo et ça fait 2 ans que j'en fais et enfin, c'est génial quoi.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Louise, j'ai 22 ans et j'habite à Toulouse. J'ai grandi à Paris, dans le 20e arrondissement, en haut du parc de Belleville, avec ma maman et ma petite sœur. Et j'ai emménagé il y a 2 ans à Toulouse. Et je suis issue d'une famille de classe moyenne. On roule pas sur l'or, mais on n'a jamais manqué de rien, quoi. Et j'ai rencontré en maternelle mes deux meilleures copines, Raphaël et Inès. La première, Raphaël, elle était plutôt aisée, une famille avec un grand patrimoine. Et on n'a jamais senti un écart quand on voit nos familles et la sienne. Au contraire, elle a toujours voulu nous faire partager, donc c'est plutôt chouette. Et Inès, ses parents, enfin son papa est arrivé d'Algérie quand il avait 20 ans. Et elle n'a jamais manqué de rien aujourd'hui, mais on peut pas dire non plus qu'il roule sur l'or. Je pense que si on est amis, c'est parce qu'on est très différentes et qu'on s'apporte chacune des choses qui n'ont rien à voir. Et donc au lycée, moi j'ai été en première STMG. J'avais peut-être un peu honte de dire que j'étais en STMG parce que j'avais peur des regards des gens. Et les filles, elles étaient en L. Néanmoins, ça n'a rien changé à notre amitié, et même au niveau des sujets de conversation, on n'a jamais senti d'écart entre mes études et les leurs. Ça a toujours été comme ça, et j'ai toujours eu l'habitude de fréquenter des personnes qui ont plus un parcours littéraire. Elles avaient un parcours scolaire un peu similaire, pas moi, ça m'a jamais gênée. Moi, j'ai 17 ans, là, en 2019, donc c'est juste avant notre bac. J'entends parler du Covid sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a une épidémie qui arrive, mais ça me paraissait tellement insensé qu'on puisse être confiné un jour, c'était pas possible dans ma tête. Et puis, mais quand le sujet devient un peu sérieux, avec les filles, on réfléchissait un peu à comment est-ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait devoir rester chez nous, puis dans des petits espaces, est-ce qu'on va pas tous être les uns sur les autres, et... Au moment de ce fameux confinement, mais on ne sait pas vraiment, c'est flou, Raphaël nous dit qu'elle ira potentiellement se confiner dans son château familial, quoi. Et me vient la merveilleuse idée de lui demander si on peut venir avec elle. On s'est dit, c'est chouette, ça nous fait des petites vacances, on peut profiter. Pourquoi pas ? Elle m'a dit, je vais voir avec mes parents et peut-être que oui, en effet, vous pouvez venir. Bingo, ses parents sont d'accord. On est parti pour le château et on arrive là-bas. En effet, le château est incroyablement beau. C'est énorme. Il y a des pièces à n'en plus finir. Il a tout de bucolique. Il a tout de chouette. On s'y sent bien. Il y a un étang avec une barque. Il y a une salle avec un billard, avec un baby-foot. C'est juste impressionnant. Il y a deux cuisines, il y a des salles de bain quasi à toutes les chambres, il y a des dortoirs avec des lits à n'en plus finir. Avec Inès, on est émerveillés. On se dit, mais c'est dingue que Raphaël a tout ça. Je veux dire, cet endroit manque de rien. Ça paraît être le paradis. T'en as un peu marre. Tu peux aller faire une balade en forêt. Tu peux aller faire un tour sur un étang. Il y a un terrain de tennis qui fait aussi terrain de basket. Je veux dire, nous, on est sur une autre planète. Quand on arrive ici, on se dit « Waouh !» Je me dis « Je vais rester ici toute ma vie. » C'est le rêve. C'est le rêve. Et donc là, en fait, petit à petit, tout le monde arrive et on est au total 17. C'est énorme. Déjà, il y a une crainte de cluster de fou. On se dit, mais en fait, c'est complètement inconscient ce qu'on est en train de faire. On n'a rien compris. C'était absolument pas l'objectif. L'objectif, c'était que chacun reste chez soi. Pas de faire une colonie de vacances. Ou une maison de télé-réalité. Je sais pas, c'était l'un des deux, mais c'était quelque chose, quoi. Donc, on se trouve un peu bête. Et en plus, on se rend compte qu'en fait, si on est 17, c'est parce que tout le monde voulait venir, quoi. Il y avait donc, il y avait les parents de Raphaël avaient invité un couple d'amis qui avaient également invité leurs enfants. Et les enfants-mêmes avaient invité les copains des copains. On s'est retrouvés, donc on était 13, entre 15 et 22 ans. Et après, il y avait 5 adultes. Le ratio d'adolescents est quand même assez élevé dans la maison. Ce qui pouvait aussi faire peur aux parents, j'imagine, de Raphaël, qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait, là ? Juste avant le confinement, je fréquentais un garçon qui est par ailleurs le cousin de Raphaël. Donc j'ai fait ma première fois avec lui, je devais avoir 14-15, quelque chose comme ça. Donc on couchait ensemble de temps en temps, pendant 3-4 ans, c'était mon plan cul quoi. Mais ça menait à rien, c'était pas... Moi je pense que j'étais un peu plus à fond que lui, soyons honnêtes. Il était un peu plus vieux, c'était pas la folie des grandeurs. Et donc juste avant le confinement, je lui envoie un peu un message en lui disant « Bah écoute, voilà, je crois que là, on a fait le tour, on n'a plus rien à se raconter. Ça fait 3-4 ans qu'on se fréquente, notre relation, elle est proche à zéro, elle est nulle. Passons, c'est terminé. Et puis voilà, enfin c'est pas grave, on s'en fout en vrai. » Et donc tout le monde arrive dans ce château. Et à un moment, Raphaël me dit qu'il y a potentiellement son cousin donc qui va débarquer. Mais elle n'était pas trop sûre, c'était un peu flou. On ne savait pas. Et donc ça me paraissait tellement impensable de le voir dans un truc collectif, en plus avec sa famille, alors qu'on ne s'est jamais vu avec d'autres personnes. Avec Raphaël, on ne parlait même pas de lui, tellement notre relation était bizarre, c'était limite sujet tabou. Et à un moment, la porte sonne. Et donc là, c'est Inès qui ouvre la porte. Et donc là, il y a le fameux cousin qui est là avec son meilleur pote et sa maman, sa sœur, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et là, je me dis, Oh non, mais l'enfer, mais ça doit durer que 3-4 jours. On va chacun repartir à nos vies et puis basta la chuta, quoi. On avait vraiment l'impression que c'était un premier jour de colonie de vacances quand on débarque et qu'on est à la cantine et qu'il faut sociabiliser. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Et dès ce premier dîner, je me retrouve à côté du meilleur copain de Mathieu. Et le feeling passe super bien, en vrai. Le mec est chouette, on rigole, c'est facile. Détend un peu l'atmosphère, franchement, rien à redire. Trop chouette, on se dit trop cool. Au tout début, les journées, enfin, on stagnait un peu dans la maison, on errait, on savait pas trop quoi faire, on faisait des petits jeux, on restait plus chacun, généralement avec ceux qu'on connaissait. Voilà, et puis après, assez rapidement, on a su que Macron nous confinait pour une durée indéterminée. Et donc là, on a commencé un peu, je pense, à créer une vraie vie collective, c'est-à-dire que il y avait deux cuisines, donc les jeunes on avait une cuisine le midi et les adultes une autre cuisine et chacun faisait sa cuisine. Il y avait aussi en fait finalement une espèce de, enfin comme dans une communauté, une répartition des tâches, ceux qui faisaient la vaisselle, ceux qui faisaient plus la nourriture, ceux qui allaient faire les courses. C'était vraiment une vie en communauté qui était en train de se créer, quoi. Et c'était très chouette. Après, chacun avait ses petites habitudes propre à soi, parce que même si c'était quand même grand, t'avais peu de moments où t'étais seule avec toi-même. Et moi, j'allais tous les matins, par exemple, marcher en forêt. Mais alors, par contre, je voulais que personne ne vienne avec moi. C'était mon moment. Et genre, juste, je prenais ma musique et je dansais. Et puis, comme j'ai un peu une deuxième vie dans ma tête aussi, et ben, ça me permettait aussi, c'était le seul moment où je pouvais faire ma deuxième vie dans ma tête. Et ça, j'aimais trop. Non, je vais pas raconter ma vie dans ma tête à la radio. Bah, je veux dire, moi j'ai ma vie, la vraie vie, et aussi la vie qu'il y a dans ma tête. Une petite vie construite, une fiction, quoi. Moi, ma vie dans ma tête, je la fais quand je peux marcher, des trucs comme ça. Et bah, du coup, là, je pouvais faire ma vie dans ma tête. Ça me permettait un peu de penser à autre chose que ce qu'on était en train de vivre actuellement. Et c'était, mais excellent. Je recommande à tout le monde. Et en fait, je crois qu'on est un peu tous pareils à avoir cette vie-là imaginaire, où forcément, bah, un peu zone de confort. C'est débile, mais... En même temps, ça fait des espèces de... Enfin, peut-être je suis folle, mais des espèces de shots de dopamine. Et ça me faisait trop du bien. Ensuite, suit les premiers dîners un peu particuliers, parce que ben on est plein, personne se connaît. Enfin, tout le monde a des petits liens avec tout le monde, mais en vrai, personne se connaît. Et donc, ça donne une ambiance un peu particulière, je trouve, au début, où on est là, on doit cohabiter. C'est le début, on sait pas trop ce qui se passe. C'est un événement particulier. Personne n'a jamais été confiné, on sait pas à quoi ça ressemble, on sait pas ce qu'on peut faire, rien. Donc, tout le monde prenait l'apéritif. Le repas était en train d'être fait, mais on prenait genre 2 heures par jour, je me rappelle, à faire à manger. Le temps du... La préparation du repas, elle était énorme. Et donc après, on allait tous manger. Il y avait une salle dédiée, une salle à manger. Enfin, c'est une salle à manger qu'un immense miroir. La table, elle faisait 3 fois notre taille. On se marchait pas dessus, quoi. C'était chouette. Et donc, du coup, ça faisait vraiment très impressionnant. Et ce qui, nous aussi, un peu, avec Inès, pouvait nous intimider au début, c'était les sujets de conversation. Ça parlait culture, ça mangeait culture, ça bouffait culture. Enfin, genre, c'était ça dormait culture. Même le matin, le petit-déj, c'était culture, culture, culture. Et moi, vraiment, ils avaient des références que j'avais pas. Pour avoir des discussions et des débats, c'était plus compliqué parce que je sentais que l'écart était quand même assez important, quoi. Mais je me suis dit, mais putain, mais ils vont me prendre pour une conne. Ils vont me trouver débile. Et au fil des jours, moi, c'était plus l'humour qui fonctionnait, ou le fait d'être hyper énergique, ou toujours avoir envie de faire des choses. Et ça a hyper bien marché, parce que c'est justement ce qui a vraiment créé un lien entre nous tous, et je me suis sentie tellement bien intégrée grâce à cette carte-là, juste après, genre, c'était incroyable. Et je me sentais là, vraiment, véritablement à l'aise. Notre relation avec Mathieu, pendant le confinement, elle était quand même très particulière. Parce que alors au départ ça se passait bien, puis au final je m'entendais tellement bien avec Enzo, son meilleur ami, que je crois que ça a commencé à lui poser un petit problème. On se dit quand même, on essaie de quand même d'être un peu faire un peu attention, parce qu'il est quand même dans la même maison que nous. Donc pas très chouette en vrai de fréquenter, enfin ça se fait pas, quoi. Et Au fil du temps, avec Enzo, ça se passe de mieux en mieux. On s'entend bien, on rigole bien. Et la cuisine, c'était vraiment son truc. Et moi, j'étais très mauvaise cuisinière, mais c'était un peu un moment qu'on créait où il faisait à manger et moi, je faisais la discussion. Enzo, j'aimais beaucoup, je pense, sa joie de vivre. Toujours des terres pour tout faire. Vraiment, on voulait faire un gâteau, il fait le gâteau. On va se balader, il veut se balader. C'était d'une facilité sans nom. Tu forçais pas la relation, enfin ou le lien, quoi. Tu vivais et tout était facile. Sur le moment, ça te fait du bien. Parce que t'es en mode, bah trop bien, je trouve un collègue avec qui bien rigoler, on peut faire plein de choses et ça, on se prend pas la tête. Et ça, c'était trop trop chouette. Et en même temps, il était hyper attentionné. T'avais faim à 1h du matin, à bim bam boum, il te faisait à manger. C'est débile, c'était des mini-attentions, mais qui, je pense, moi, en tant que lycéenne, m'a un peu fait tomber amoureuse. Et puis tu sentais qu'il se forçait pas, quoi. Genre, la vie, elle est... Enfin, c'était facile. Donc du coup, on a commencé une petite amourette, mais on n'a pas du tout couché ensemble. C'était comme ça, quoi. Et en même temps, soyons honnêtes, je pense que tout le monde était un peu au courant. Voilà, mais on aimait bien le fait, je pense que ça se dise pas. Et en même temps, je pense aussi que j'aimais bien ce rapport-là avec ce mec de ben, on couche pas ensemble, y est pas. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais au collège, quoi. Et ça, je trouvais ça chouette. C'était pas pensable pour moi de coucher avec ce mec. Y avait pas de rapport sexuel. On s'embrassait, on faisait des siestes, mais c'est tout. Et donc bon, bah au bout de 2 mois, le confinement est terminé, chacun peut rentrer chez soi. Et là, un peu particulier de rentrer chez soi après 2 mois dans une grande maison. Je deviens détestable avec ma maman, mais vraiment détestable. J'arrive, première chose que je dis, c'est assez petit, mais vraiment désagréable au possible. On a une espèce de petite kitchenette, la hauteur sous plafond, j'avais l'impression d'être dans une cabane, et je lui disais quoi. L'ambiance me manquait énormément. Avec Raphaël, on a quand même fait une énorme fixette sur le confinement. C'est-à-dire qu'on tournait à l'obsession. On voulait qu'une chose, c'était se reconfiner. C'était infernal. J'avais qu'une envie, c'était de retourner en colonie de vacances, moi. J'étais en mode, mais trop bien. Mais sauf que non, la vie, c'était pas ça. C'était pas ma vie, c'était juste une parenthèse. Et puis c'était ça aussi qui rendait le moment beau. C'était que finalement, c'était qu'un temps et qu'on allait jamais le revivre. Vraiment, moi, à chaque fois que je revois une personne du confinement, je dis que c'est la famille. C'est la famille.
C'était Ado confiné, deux histoires par Rita Ruggirello, une émission réalisée par Perret Legras. Merci à Arnaud, à Jeanne, à Guy Benamouzig, à l'association La Vita, à Paul Chambon et à Sophie Damoran. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
Should have been on.